Maurice Leblanc, 813, chapitre 1, deuxième partie. Arsène Lupin. Gourel répétait ces deux mots fatidiques d'un air absolument pétrifié. Il résonnait en lui comme un glas. Arsène Lupin, le bandit roi, l'aventurier suprême. Voyons, était-ce possible ? « mais non, murmura-t-il, ce n'est pas possible puisqu'il est mort. »« Seulement voilà, était-il réellement mort ?» Arsène Lupin. Debout près du cadavre, il demeurait stupide, abasourdi, tournant et retournant la carte avec une certaine crainte, comme s'il venait de recevoir la provocation d'un fantôme. Arsène Lupin. Qu'allait-il faire ? Agir ? Engager la bataille avec ses propres ressources ? Non, non, il valait mieux ne pas agir. Les fautes étaient inévitables s'il relevait le défi d'un tel adversaire. Et puis, le chef n'allait-il pas venir ? Le chef va venir. Toute la psychologie de Gourel se résumait dans cette petite phrase. Habile et persévérant, plein de courage et d'expérience, d'une force herculéenne, il était de ceux qui ne vont de l'avant que lorsqu'ils sont dirigés et qui n'accomplissent de bonnes besognes que lorsqu'elles leur est commandées. Combien ce manque d'initiative s'était aggravé depuis que M. Lenormand avait pris la place de M. Duduit au service de la sûreté. Celui-là était un chef, M. Lenormand. Avec celui-là, on était sûr de marcher dans la bonne voie. Si sûr même que Gourel s'arrêtait dès que l'impulsion du chef ne lui était plus donnée. Mais le chef allait venir. Sur sa montre, Gourel calculait l'heure exacte de cette arrivée. Pourvu que le commissaire de police ne le précédât point et que le juge d'instruction, déjà désigné sans doute, ou le médecin légiste, ne vinsse pas faire d'inopportunes constatations avant que le chef n'eût le temps de fixer dans son esprit les points essentiels de l'affaire. « Eh bien, Gourel, à quoi rêves-tu ? » ?»«
Le chef. »
Monsieur Lenormand était un homme encore jeune, si l'on considérait l'expression même de son visage, ses yeux qui brillaient sous ses lunettes. Mais c'était presque un vieillard si l'on notait son dos voûté, sa peau sèche, comme jauni à la cire, sa barbe et ses cheveux grisonnants, toute son apparence brisée, hésitante, maladive. Il avait péniblement passé sa vie aux colonies, comme commissaire du gouvernement, dans les postes les plus périlleux. Il y avait gagné des fièvres, une énergie indomptable malgré sa déchéance physique, l'habitude de vivre seul, de parler peu et d'agir en silence. Une certaine misanthropie, et soudain, vers 55 ans, à la suite de la fameuse affaire des trois Espagnols de Biskra, la grande, la juste notoriété. On réparait alors l'injustice, et d'emblée, on le nommait à Bordeaux, puis sous-chef à Paris, puis à la mort de M. Duduit, chef de la sûreté. Et en chacun de ses postes, il avait montré une invention si curieuse dans les procédés, de telles ressources, des qualités si neuves, si originales, et surtout, il avait abouti à des résultats si précis dans la conduite des quatre ou cinq derniers scandales qui avaient passionné l'opinion publique, qu'on opposait son nom à celui des plus illustres policiers. Gourel, lui, n'hésitait pas. Favori du chef, qu'il aimait pour sa candeur et pour son obéissance passive, il mettait M. Lenormand au-dessus de tous. C'était l'idole, le dieu qui ne se trompe pas. M. Lenormand, ce jour-là, semblait particulièrement fatigué. Il s'assit avec lassitude, écarta les pans de sa redingote, une vieille redingote célèbre par sa coupe surannée et par sa couleur olive, dénoua son foulard, un foulard marron également fameux, et murmura « Parle !» Gourel raconta tout ce qu'il avait vu et tout ce qu'il avait appris. Et il le raconta sommairement, selon l'habitude que le chef lui avait imposée. Mais quand il exhiba la carte de Lupin, M. Lenormand tressaillit. « Lupin ! » s'écria-t-il. « Oui, Lupin, le voilà revenu sur l'eau, cet animal-là. »«
Tant mieux, tant mieux !» fit M. Lenormand après un instant de réflexion.
« Oh, évidemment, tant mieux !» reprit Gourel, qui se plaisait à commenter les rares paroles d'un supérieur auquel il ne reprochait que d'être trop peu loquace. « Tant mieux, car vous allez enfin vous mesurer avec un adversaire digne de vous. Et Lupin trouvera son maître. Lupin n'existera plus. Lupin... »«
Cherche !» fit M. Lenormand, lui coupant la parole. On eût dit l'ordre d'un chasseur à son chien. Et de fait, ce fut à la manière d'un bon chien, vif, intelligent, fureteur, que chercha Gourel sous les yeux de son maître. Du bout de sa canne, M. Lenormand désignait tel coin, tel fauteuil, comme on désigne un buisson ou une touffe d'herbe avec une conscience minutieuse.
« Rien, conclut le brigadier. Rien pour toi. » grogna M. Lenormand.
C'est ce que je voulais dire. Je sais que pour vous, il y a des choses qui parlent comme des personnes, des vrais témoins. N'empêche que voilà un crime bel et bien établi à l'actif du sieur Lupin.
Le premier, observa M. Lenormand.
Le premier, en effet. Mais c'était inévitable. On ne mène pas cette vie-là sans un jour ou l'autre être acculé au crime par les circonstances. Monsieur Kesselbach se sera défendu.
Non, puisqu'il était attaché.
En effet, avoua Gourel déconcerté. Oh, c'est même fort curieux.
Pourquoi tu as un adversaire qui n'existe déjà plus?
Mais n'importe, si je lui avais mis la main au collet hier, quand nous nous sommes trouvés l'un en face de l'autre, au seuil du vestibule.
M. Lenormand avait passé sur le balcon. Puis il visita la chambre de M. Kesselbach à droite, vérifia la fermeture des fenêtres et des portes.
Les fenêtres de ces deux pièces étaient fermées quand je suis entré, affirma Gourel.
Fermées ou poussées?
Personne n'y a touché.
Or, elles sont fermées, chef.
Un bruit de voix les ramena au salon. Ils y trouvèrent le médecin légiste en train d'examiner le cadavre et M. Formerie, juge d'instruction. Et M. Formerie s'exclamait.
« Arsène Lupin, enfin je suis heureux qu'un hasard bienveillant me remette en face de ce bandit. Le gaillard verra de quel bois je me chauffe. Et cette fois, il s'agit d'un assassin. À nous deux, maître Lupin !»
M. Formerie n'avait pas oublié l'étrange aventure du diadème de la princesse de Lamballe et l'admirable façon dont Lupin l'avait roulé quelques années auparavant. La chose était restée célèbre dans les annales du palais. On en riait encore, et M. Formerie, lui, en conservait un juste sentiment de rancune et le désir de prendre une revanche éclatante.
« Le crime est évident, » prononça-t-il de son air le plus convaincu. « Le mobile nous sera facile à découvrir. »
« Allons, tout va bien, Monsieur Lenormand, je vous salue et je suis enchanté. »
M. Formerie n'était nullement enchanté. La présence de M. Lenormand lui agréait, au contraire, fort peu, le chef de la sûreté ne dissimulant guère le mépris où il le tenait. Pourtant, il se redressa et toujours solennel. « Alors, docteur, vous estimez que la mort remonte à une douzaine d'heures environ, peut-être davantage ?»«
C'est ce que je suppose, nous sommes tout à fait d'accord. »«
Et l'instrument du crime ?»
« Un couteau à lame très fine, monsieur le juge d'instruction, » répondit le médecin. « Tenez, on a essuyé la lame avec le mouchoir même du mort. »
En effet, la trace est bien visible. Et maintenant, nous allons interroger le secrétaire et le domestique de M. Kesselbach. Je ne doute pas que leur interrogatoire ne nous fournisse quelques lumières. Chapman, que l'on avait transporté dans sa propre chambre à gauche du salon, ainsi qu'Edwards, était déjà remis de ses épreuves. Il exposa par le menu les événements de la veille, les inquiétudes de M. Kesselbach, la visite annoncée du soi-disant colonel, et enfin raconta l'agression dont ils avaient été victimes. Ah, s'écria M. Formery, il y a un complice. Et vous avez entendu son nom. Marco, dites-vous. Ceci est très important. Quand nous tiendrons le complice, la besogne sera avancée. Oui, mais nous ne le tenons pas, risqua M. Lenormand. Nous allons voir chaque chose à son temps. Et alors, M. Chapman, ce Marco est parti aussitôt après le coup de sonnette de M. Gourel. Oui, nous l'avons entendu partir. Et après ce départ, vous n'avez plus rien entendu. Si, de temps à autre, mais vaguement. La porte était close. Et quelle sorte de bruit ? Oh, des éclats de voix, l'individu. Appelez-le par son nom, Arsène Lupin. Arsène Lupin a dû téléphoner. Parfait. Nous interrogerons la personne de l'hôtel qui est chargée du service des communications avec la ville. Et plus tard, vous l'avez entendu sortir, lui aussi ? Il a constaté que nous étions toujours bien attachés et un quart d'heure après, il partait en refermant sur lui la porte du vestibule. Oui, aussitôt son forfait accompli. Parfait. Tout s'enchaîne. Et après ? Après, nous n'avons plus rien entendu. La nuit s'est passée, la fatigue m'a assoupi, Edwards également. Et ce n'est que ce matin. Oui, je sais. Allons, ça ne va pas mal, tout s'enchaîne. Et marquant les étapes de son enquête, du ton dont il aurait marqué autant de victoires sur l'inconnu, il murmura pensivement. Le complice, le téléphone, l'heure du crime, les bruits perçus. Bien, très bien. Il nous reste à fixer le mobile du crime. En l'espèce, comme il s'agit de Lupin, le mobile est clair. Monsieur Lenormand, vous n'avez pas remarqué la moindre trace d'effraction ? Aucune. C'est qu'alors le vol aura été effectué sur la personne même de la victime. A-t-on retrouvé son portefeuille ? Je l'ai laissé dans la poche de la jaquette, dit Gourel. Ils passèrent tous dans le salon, où Monsieur Formery constata que le portefeuille ne contenait que des cartes de visite et des papiers d'identité. C'est bizarre. Monsieur Chapman, vous ne pourriez pas nous dire si Monsieur Kesselbach avait sur lui une somme d'argent ? Oui, la veille, c'est-à-dire avant-hier, lundi, nous sommes allés au Crédit Lyonnais, où Monsieur Kesselbach a loué un coffre. Un coffre au Crédit Lyonnais ? Bien, il faudra voir de ce côté. Et avant de partir, M. Kesselbach s'est fait ouvrir un compte et il a emporté 5 ou 6 000 francs en billets de banque. Parfait, nous sommes éclairés. Chapman reprit. Il y a un autre point, monsieur le juge d'instruction. M. Kesselbach, qui depuis quelques jours était très inquiet, je vous en ai dit la cause, un projet auquel il attachait une importance extrême, M. Kesselbach semblait tenir particulièrement à deux choses. D'abord, une cassette d'ébène, et cette cassette, il l'a mise en sûreté au Crédit Lyonnais, et ensuite une petite enveloppe de maroquin noir où il avait enfermé quelques papiers. Et cette enveloppe, avant l'arrivée de Lupin, il l'a déposé devant moi dans ce sac de voyage.
Monsieur Formerie prit le sac et fouilla. L'enveloppe ne s'y trouvait pas. Il se frotta les mains. Allons, tout s'enchaîne. Nous connaissons le coupable, les conditions et le mobile du crime. Cette affaire-là ne traînera pas. Nous sommes bien d'accord sur tout, monsieur Lenormand ?
Sur rien.
Il y eut un instant de stupéfaction. Le commissaire de police était arrivé et derrière lui, malgré les agents qui gardaient la porte, la troupe des journalistes et le personnel de l'hôtel avaient forcé l'entrée et stationné dans l'antichambre. Si notoire que fût la rudesse du bonhomme, rudesse qui n'allait pas sans quelque grossièreté et qui lui avait déjà valu certaines semonces en haut lieu, la brusquerie de la réponse déconcerta. Et M. Formerie, tout spécialement, parut interloqué. « Pourtant, dit-il, je ne vois rien là que de très simple. Lupin est le voleur. »
« Et pourquoi a-t-il tué ?» lui jeta M. Lenormand.
« Pour voler. »
« Pardon, le récit des témoins prouve que le vol a eu lieu avant l'assassinat. M. Kesselbach a d'abord été ligoté et bâillonné, puis volé. Pourquoi Lupin, qui jusqu'ici n'a jamais commis de crime, aurait-il tué un homme réduit à l'impuissance et déjà dépouillé ?
Le juge d'instruction caressa ses longs favoris blonds d'un geste qui lui était familier quand une question lui paraissait insoluble. Il répondit d'un ton pensif.
« Il y a, cela, plusieurs réponses.
Lesquelles ?
Cela dépend d'un tas d'éléments encore inconnus. Et puis, d'ailleurs, l'objection ne vaut que pour la nature des motifs. Pour le reste, nous sommes d'accord.
Non. »
Cette fois encore, ce fut net, coupant, presque impoli, au point que le juge, tout à fait désemparé, n'osa même pas protester et qu'il resta interdit devant cet étrange collaborateur. À la fin, il articula.
« Chacun son système. Je serais curieux de connaître le vôtre. »«
Je n'en ai pas. »
Le chef de la sûreté se leva et fit quelques pas à travers le salon en s'appuyant sur sa canne. Autour de lui, on se taisait et c'était assez curieux de voir ce vieil homme malingre et cassé dominer les autres par la force d'une autorité que l'on subissait sans l'accepter encore. Après un long silence, il prononça.
« Je voudrais visiter les pièces qui touchent à cet appartement. »
Le directeur lui montra le plan de l'hôtel. La chambre de droite, celle de M. Kesselbach, n'avait point d'autre issue que le vestibule même de l'appartement. Mais la chambre de gauche, celle du secrétaire, communiquait avec une autre pièce. Il dit « Visitons-la ».
Monsieur Formerie ne put s'empêcher de hausser les épaules et de bougonner. Mais la porte de communication est verrouillée et la fenêtre close.
« Visitons-la !» répéta Monsieur Lenormand. On le conduisit dans cette pièce qui était la première des cinq chambres réservées à Madame Kesselbach. Puis, sur sa prière, on le conduisit dans les chambres qui suivaient. Toutes les portes de communication étaient verrouillées des deux côtés. Il demanda. « Aucune de ces pièces n'est occupée ?»«
Aucune. »
« Et les clés ?»«
Les clés sont toujours au bureau. »
Alors, personne ne pouvait s'introduire.
Personne, sauf le garçon d'étage, chargé d'aérer et d'épousseter.
Faites-le venir.
Le domestique, un nommé Gustave Bedeau, répondit que la veille, selon sa consigne, il avait fermé les fenêtres des cinq chambres.
À quelle heure ?
À 6 heures du soir.
Et vous n'avez rien remarqué ?
Non, rien.
Et ce matin ?
Ce matin, j'ai ouvert les fenêtres sur le coup de 8 heures.
Et vous n'avez rien trouvé ? Non, rien. Ah, cependant... Il hésitait. On le pressa de questions et il finit par avouer. Eh bien, j'ai ramassé près de la cheminée du 420 un étui à cigarettes que je me proposais de porter ce soir au bureau. Vous l'avez sur vous ? Non, il est dans ma chambre. C'est un étui en acier bruni. D'un côté, on met du tabac et du papier à cigarettes, de l'autre, des allumettes. Il y a deux initiales en or, un L et un M. Que dites-vous ? C'était Chapman qui s'était avancé. Il semblait très surpris et interpellant le domestique, « Un étui en acier bruni, dites-vous ? Oui. » Avec trois compartiments pour le tabac, le papier et les allumettes. Du tabac russe, n'est-ce pas ? Fin, blond. Oui. Allez le chercher, je voudrais voir, me rendre compte moi-même. Sur un signe du chef de la sûreté, Gustave Bedeau s'éloigna. Monsieur Lenormand s'était assis et de son regard aigu, il examinait le tapis, les meubles, les rideaux. Il s'informa. Nous sommes bien au 420 ici. Oui. Le juge ricana. Je voudrais bien savoir quel rapport vous établissez entre cet incident et le drame. Cinq portes fermées nous séparent de la pièce où Kesselbach a été assassiné. Monsieur Lenormand ne daigna pas répondre. Du temps passa. Gustave ne revenait pas. Où couche-t-il, monsieur le directeur ? Demanda le chef. Au 6e, sur la rue de Judée, donc au-dessus de nous. Il est curieux qu'il ne soit pas encore là. Voulez-vous avoir l'obligeance d'envoyer quelqu'un ? Le directeur s'y rendit lui-même, accompagné de Chapman. Quelques minutes après, il revenait seul, en courant, les traits bouleversés. « Eh bien ?»« Mort. »« Assassiné ?»« Oui. » »« Ah, tonnerre, ils sont de force, les misérables !» proféra M. Lenormand. « Au galop, Gourel conferme les portes de l'hôtel. » Veille aux issues. Et vous, monsieur le directeur, conduisez-nous dans la chambre de Gustave Bedeau. » Le directeur sortit. Mais au moment de quitter la chambre, monsieur Lenormand se baissa et ramassa une toute petite rondelle de papier sur laquelle ses yeux s'étaient déjà fixés. C'était une étiquette encadrée de bleu. Elle portait le chiffre 813. À tout hasard, il la mit dans son portefeuille et rejoignit les autres personnes. Une fine blessure au dos, entre les deux omoplates. Le médecin déclara « Exactement la même blessure que M. Kesselbach. » « Oui, fit M. Lenormand, c'est la même main qui a frappé. » Et c'est la même arme qui a servi. D'après la position du cadavre, l'homme avait été surpris à genoux devant son lit et cherchant sous son matelas l'étui à cigarette qu'il y avait caché. Le bras était encore engagé entre le matelas et le sommier, mais on ne trouva pas l'étui. Il fallait que cet objet fût diablement compromettant, insinua M. Formery. Qui n'osait plus avancer une opinion trop précise. « Parbleu !» fit le chef de la sûreté. « Mais on connaît les initiales, un L et un M. Et avec cela, d'après ce que M. Chapman a l'air de savoir, nous serons facilement renseignés. » M. Lenormand sursauta. « Chapman ? Où est-il ? » On regarda dans le couloir parmi les groupes de gens qui s'y entassaient. Chapman n'était pas là. « Monsieur Chapman m'avait accompagné, » fit le directeur. « Oui, je sais, mais il n'est pas redescendu avec vous. »
Non, je l'avais laissé près du cadavre.
Vous l'avez laissé seul?
Je lui ai dit, restez, ne bougez pas.
Et il n'y avait personne, vous n'avez vu personne?
Dans le couloir, non.
Mais dans les mansardes voisines, ou bien, tenez, après ce tournant, personne ne se cachait là?
Monsieur Lenormand semblait très agité. Il allait, il venait, il ouvrait la porte des chambres. Et soudain, il partit en courant, avec une agilité dont on ne l'aurait pas cru capable. Il dégringola les 6 étages, suivi de loin par le directeur et par le juge d'instruction. En bas, il retrouva Gourel devant la grande porte.
Personne n'est sorti.
Personne. À l'autre porte, rue Orvieto, j'y ai mis Dieuzy, de planton.
Avec des ordres formels?
Oui, chef. Dans le vaste hall de l'hôtel, la foule des voyageurs se pressait avec inquiétude, commentant les versions plus ou moins exactes qui lui parvenaient sur ce crime étrange. Tous les domestiques, convoqués par téléphone, arrivaient un à un. Monsieur Lenormand les interrogeait aussitôt. Aucun d'eux ne put donner le moindre renseignement. Mais une bonne du 5e étage se présenta. 10 minutes auparavant, peut-être, elle avait croisé 2 messieurs qui descendaient l'escalier de service entre le 5e et le 4e.
Ils descendaient très vite. Le premier tenait l'autre par la main.
Ça m'a étonné de voir ces 2 messieurs dans l'escalier de service.
Vous pourriez les reconnaître?
Oh, le premier, non, il a tourné la tête. C'est un mince, blond. Il avait un chapeau mou, noir et des vêtements noirs.
Et l'autre?
Ah, l'autre, c'est un Anglais, avec une grosse figure toute rasée et des vêtements à carreaux. Il avait la tête nue.
Le signalement se rapportait en toute évidence à Chapman. La femme ajouta.
Il avait un air tout drôle, comme s'il était fou.
L'affirmation de Gourel ne suffit pas à Monsieur Lenormand. Il questionnait tour à tour les grooms qui stationnaient aux 2 portes.
« Vous connaissez Monsieur Chapman ?»«
Oui, monsieur, il causait toujours avec nous. »«
Et vous ne l'avez pas vu sortir ?»«
Pour ça, non, il n'est pas sorti ce matin. »
Monsieur Lenormand se retourna vers le commissaire de police.
« Combien d'hommes avez-vous, monsieur le commissaire ?»«
4. »
Ce n'est pas suffisant. Téléphonez à votre secrétaire qu'il vous expédie tous les hommes disponibles. Et veuillez organiser vous-même la surveillance la plus étroite à toutes les issues.
L'état de siège, monsieur le commissaire.
Mais enfin, protesta le directeur, mes clients.
Me fiche de vos clients, monsieur. Mon devoir passe avant tout. Et mon devoir est d'arrêter coûte que coûte.
Vous croyez donc? Hasarda le juge d'instruction.
« Je ne crois pas, monsieur. Je suis sûr que l'auteur du double assassinat se trouve encore dans l'hôtel. »
« Mais alors, Chapman ?»«
À l'heure qu'il est, je ne puis répondre que Chapman soit encore vivant. En tout cas, c'est une question de minutes, de secondes. Gourel, prends 2 hommes et fouille toutes les chambres du 4e étage. » Monsieur le directeur, un de vos employés les accompagnera. Pour les autres étages, je marcherai quand nous aurons du renfort. Allons, Gourel, en chasse et ouvre l'œil. C'est du gros gibier.
Gourel et ses hommes se hâtèrent. Monsieur Lenormand, lui, resta dans le hall et près des bureaux de l'hôtel. Cette fois, il ne pensait pas à s'asseoir, selon son habitude. Il marchait de l'entrée principale à l'entrée de la rue Orvieto et revenait à son point de départ. De temps à autre, il ordonnait. « Monsieur le directeur, qu'on surveille les cuisines, on pourrait s'échapper par là. »«
Monsieur le directeur, dites à votre demoiselle de téléphone qu'elle n'accorde la communication à aucune des personnes de l'hôtel qui voudrait téléphoner avec la ville. »«
Si on lui téléphone de la ville, qu'elle mette en communication avec la personne demandée, mais alors qu'elle prenne note du nom de la personne. »
Monsieur le directeur, faites dresser la liste de vos clients dont le nom commence par un L
ou par un M. Il disait tout cela à haute voix en général d'armée qui jette à ses lieutenants des ordres dont dépendra l'issue de la bataille. Et c'était vraiment une bataille, implacable et terrible, que celle qui se jouait dans le cadre élégant d'un palace parisien, entre le puissant personnage qu'est un chef de la sûreté et ce mystérieux individu poursuivi, traqué, presque captif déjà, mais si formidable de ruse et de sauvagerie. L'angoisse étreignait les spectateurs, tous groupés au centre du hall, silencieux et pantelants, secoués de peur au moindre bruit, obsédés par l'image infernale de l'assassin. Où se cachait-il? Allait-il apparaître? N'était-il point parmi eux? Celui-ci peut-être? Ou cet autre? Les nerfs étaient si tendus que, sous un coup de révolte, on eût forcé les portes et gagné la rue si le maître n'avait pas été là et sa présence avait quelque chose qui rassurait et qui calmait. On se sentait en sécurité, comme des passagers sur un navire que dirige un bon capitaine. Et tous les regards se portaient vers ce vieux monsieur à lunettes et à cheveux gris, à redingote olive et foulard marron, qui se promenait le dos voûté, les jambes vacillantes. Parfois accourait, envoyé par Gourel, un des garçons qui suivait l'enquête du brigadier. « Du nouveau ?» demandait monsieur Lenormand. « Rien, monsieur, rien, on ne trouve rien. » À deux reprises, le directeur essaya de faire fléchir la consigne. La situation était intolérable. Dans les bureaux, plusieurs voyageurs, appelés par leurs affaires ou sur le point de partir, protestaient. « Je m'en fiche !» répétait monsieur Lenormand. « Mais je les connais tous. Tant mieux pour vous. Vous outrepassez vos droits. Je le sais. On vous donnera tort. J'en suis persuadé. Monsieur le juge d'instruction lui-même. Oh, que monsieur Formerie me laisse tranquille. Il n'a pas mieux à faire que d'interroger les domestiques, comme il s'y emploie actuellement. Pour le reste, ce n'est pas de l'instruction. C'est de la police. Ça me regarde. » À ce moment, une escouade d'agents fit irruption dans l'hôtel. Le chef de la sûreté les répartit en plusieurs groupes, qu'il envoya au troisième étage, puis s'adressant au commissaire, « Mon cher commissaire, je vous laisse la surveillance. Pas de faiblesse, je vous en conjure. Je prends la responsabilité de ce qui surviendra. » Et se dirigeant vers l'ascenseur, il se fit conduire au second étage. La besogne n'était pas facile. Elle fut longue, car il fallait ouvrir les portes des 60 chambres, inspecter toutes les salles de bain, toutes les alcôves, tous les placards, tous les recoins. Elle fut aussi infructueuse. Une heure après, sur le coup de midi, M. Lenormand avait tout juste fini le second étage, les autres agents n'avaient pas terminé les étages supérieurs et nulle découverte n'avait été faite. M. Lenormand hésita. L'assassin était-il remonté vers les mansardes? Il se décidait cependant à descendre quand on l'avertit que Madame Kesselbach venait d'arriver avec sa demoiselle de compagnie. Edwards, le vieux serviteur de confiance, avait accepté la tâche de lui apprendre la mort de M. Kesselbach. M. Lenormand la trouva dans un des salons, terrassée, sans larmes, mais le visage tordu de douleur et le corps tout tremblant, comme agité par des frissons de fièvre. C'était une femme assez grande, brune, dont les yeux noirs, d'une grande beauté, étaient chargés d'or, de petits points d'or, pareils à des paillettes, qui brillent dans l'ombre. Son mari l'avait connue en Hollande, où Dolores était née d'une vieille famille d'origine espagnole, les Amonti. Tout de suite, il l'avait aimée. Et depuis 4 ans, leur accord, fait de tendresse et de dévouement, ne s'était jamais démenti. Monsieur Lenormand se présenta. Elle le regarda sans répondre et il se tut, car elle n'avait pas l'air, dans sa stupeur, de comprendre ce qu'il disait. Puis, tout à coup, elle se mit à pleurer abondamment et demanda qu'on la conduisît auprès de son mari. Dans le hall, M. Lenormand trouva Gourel, qui le cherchait, et qui lui tendit précipitamment un chapeau qu'il tenait à la main. « Patron, j'ai ramassé ça. Pas d'erreur sur la provenance, hein ?» C'était un chapeau mou, un feutre noir. À l'intérieur, il n'y avait pas de coiffe, pas d'étiquette. « Où l'as-tu ramassé ?»« Sur le palier de l'escalier de service, au second. » »« Aux autres étages, rien ?»«
Rien. Nous avons tout fouillé. Il n'y a plus que le premier. »
Et ce chapeau prouve que l'homme est descendu jusque-là. Nous brûlons, patron.
Je le crois.
Au bas de l'escalier, M. Lenormand s'arrêta. Rejoins le commissaire et donne-lui la consigne. Deux hommes au bas de chacun des quatre escaliers, revolvers au poing. Et qu'on tire s'il le faut. Comprends ceci, Gourel. Si Chapman n'est pas sauvé, et si l'individu s'échappe, je saute. Voilà 2 heures que je fais de la fantaisie. » Il monta l'escalier. Au premier étage, il rencontra 2 agents qui sortaient d'une chambre conduits par un employé. Le couloir était désert. Le personnel de l'hôtel n'osait s'y aventurer, et certains pensionnaires s'étaient enfermés à double tour dans leur chambre, de sorte qu'il fallait frapper longtemps et se faire reconnaître avant que la porte s'ouvrît. Plus loin, M. Lenormand aperçut un autre groupe d'agents qui visitaient l'office, et à l'extrémité du long couloir, il en aperçut d'autres encore qui approchaient du tournant, c'est-à-dire des chambres situées sur la rue de Judée. Et soudain, il entendit ceux-là qui poussaient des exclamations et ils disparurent en courant. Il se hâta. Les agents s'étaient arrêtés au milieu du couloir, à leurs pieds, barrant le passage, la face sur le tapis, gisait un corps. Monsieur Lenormand se pencha et saisit entre ses mains la tête inerte. « Chapman !» murmura-t-il. « Il est mort. » Il l'examina. Un foulard de soie blanche, tricoté, serrait le cou. Il le défit. Des taches rouges apparurent et il constata que ce foulard maintenait contre la nuque un épais tampon d'ouate tout sanglant. Cette fois encore, c'était la même petite blessure, nette, franche, impitoyable. Tout de suite prévenu, M. Formery et le commissaire accoururent. « Personne n'est sorti ?» demanda le chef. « Aucune alerte ?»«
Rien, » fit le commissaire. « 2 hommes sont en faction au bas de chaque escalier. »«
Peut-être est-il remonté ?» dit M. Formery.
« Non, non.
Pourtant, on l'aurait rencontré. »«
Non, tout cela est fait depuis longtemps. » Les mains sont froides déjà.
Le meurtre a dû être commis presque aussitôt après l'autre, dès le moment où les 2 hommes sont arrivés ici par l'escalier de service.
Mais on aurait vu le cadavre. Pensez donc, depuis 2 heures, 50 personnes ont passé par là.
Le cadavre n'était pas ici.
Mais alors où était-il?
Eh, qu'est-ce que j'en sais ? Riposta brusquement le chef de la sûreté. « Faites comme moi, cherchez. C'est pas avec des paroles que l'on trouve. » De sa main nerveuse, il martelait avec rage le pommeau de sa canne et il restait là, les yeux fixés au cadavre, silencieux et pensif. Enfin, il prononça. « Monsieur le commissaire, ayez l'obligeance de faire porter la victime dans une chambre vide. On appellera le médecin. « Monsieur le directeur, voulez-vous m'ouvrir les portes de toutes les chambres de ce couloir ?» Il y avait à gauche 3 chambres et 2 salons qui composait un appartement inoccupé et que M. Lenormand visita. À droite, 4 chambres. 2 étaient habitées par un M. Reverda et un Italien, le baron Giacomici, tous deux sortis à cette heure-là. Dans la 3e chambre, on trouva une vieille demoiselle anglaise, encore couchée, et dans la 4e, un Anglais qui lisait et fumait paisiblement et que les bruits du corridor n'avaient pu distraire de sa lecture. Il s'appelait le major Parbury. Perquisitions et interrogatoires, d'ailleurs, ne donnèrent aucun résultat. La vieille demoiselle n'avait rien entendu avant les exclamations des agents, ni bruit de lutte, ni cri d'agonie, ni querelle. Le major Parbury non plus. En outre, on ne recueillit aucun indice équivoque, aucune trace de sang, rien qui laissa supposer que le malheureux Chapman eût passé par l'une de ces pièces. « Bizarre !» murmura le juge d'instruction. « Tout cela est vraiment bizarre !» Et il ajouta naïvement. « Je comprends de moins en moins. Il y a là une série de circonstances qui m'échappent en partie. Qu'en pensez-vous, monsieur Lenormand ?» Monsieur Lenormand allait lui décocher sans doute une de ces ripostes aiguës par quoi se manifestait sa mauvaise humeur ordinaire, quand Gourel survint tout essoufflé. « Chef, on a trouvé ça en bas, dans le bureau de l'hôtel, sur une chaise. » C'était un paquet de dimensions restreintes, noué dans une enveloppe de serge noire. « On l'a ouvert ?» demanda le chef. « Oui, mais lorsqu'on a vu ce qu'il contenait, on a refait le paquet, exactement comme il était. Serré très fort, vous pouvez le voir. » « Dénoue. » Gourel enleva l'enveloppe et découvrit un pantalon et une veste en molleton noir que l'on avait dû, les plis de l'étoffe l'attestaient, empiler hâtivement. Au milieu, il y avait une serviette toute tachée de sang et que l'on avait plongée dans l'eau sans doute pour détruire la marque des mains qui s'y étaient essuyées. Dans la serviette, un stylet d'acier aux manches incrustées d'or. Il était rouge de sang, du sang des 3 hommes égorgés, en quelques heures, par une main invisible, parmi la foule des 300 personnes qui allaient et venaient dans le vaste hôtel. Edwards, le domestique, reconnut aussitôt le stylet comme appartenant à M. Kesselbach. La veille encore, avant l'agression de Lupin, Edwards l'avait vu sur la table. Monsieur le directeur, fit le chef de la sûreté, la consigne est levée. Gourel va donner l'ordre qu'on fasse les portes libres. Vous croyez donc que ce Lupin a pu sortir ? Interrogea Monsieur Formery. Non. L'auteur du triple assassinat que nous venons de constater est dans l'hôtel, dans une des chambres, ou plutôt mêlé aux voyageurs qui sont dans le hall ou dans les salons. Pour moi, il habitait l'hôtel. Impossible ! Et puis, où aurait-il changé de vêtements ? Quels vêtements aurait-il maintenant ? Je l'ignore, mais j'affirme. Et vous lui livrez passage ? Mais il va s'en aller tout tranquillement, les mains dans ses poches. Celui des voyageurs qui s'en ira ainsi, sans ses bagages et qui ne reviendra pas, sera le coupable. Monsieur le directeur, veuillez m'accompagner au bureau. Je voudrais étudier de près la liste de vos clients. Au bureau, M. Lenormand trouva quelques lettres à l'adresse de M. Kesselbach. Il les remit au juge d'instruction. Il y avait aussi un colis que venait d'apporter le service des colis postaux parisiens. Comme le papier qui l'entourait était en partie déchiré, M. Lenormand put voir une cassette d'ébène sur laquelle était gravé le nom de Rudolf Kesselbach. Il ouvrit. Outre les débris d'une glace dont on voyait encore l'emplacement à l'intérieur du couvercle, La cassette contenait la carte d'Arsène Lupin. Mais un détail sembla frapper le chef de la sûreté. À l'extérieur, sous la boîte, il y avait une petite étiquette bordée de bleu, pareille à l'étiquette ramassée dans la chambre du quatrième étage où l'on avait trouvé l'étui à cigarette. Et cette étiquette portait également le chiffre 813.